Je suis payé pour avoir l'impossible. Et l'impossible à ce moment-là, c'était de rentrer dans Kaboul. C'est comme ça. Si tu veux pas faire ça, tu fais un autre métier. C'est tout.
En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street, en plein jour, à 9h moins quart heure américaine. Les tours sont en feu, vous l'avez vu, pas de bilan pour l'instant.
Au fil des jours, on comprend très vite que les Alliés vont bombarder Kaboul. Enfin bon, c'est là que ça va se passer. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on se dit ? Il faut être à Kaboul.
Attentat selon les télévisions américaines, selon un haut responsable américain également.
Il y aurait eu, d'après le FBI, une prise d'otage quelques minutes auparavant sur l'un des deux appareils.
Ligne de fuite. Karen Lajon. L'addiction au terrain.
J'ai 64 ans. Moi, je pensais travailler, enfin en tout cas être grand reporter jusqu'à 70 ans. Je suis en pleine forme, je sucre pas les fraises, enfin bref.
Un documentaire de Tatiana Benamou, réalisé par Charlie Marcellet.
L'année de mes 63 ans, j'ai fait 3 rotations en Ukraine, donc ça prouve que même tard et vieille, on peut continuer à aller sur des zones compliquées.
Pour le podcast Profil, sur Arte Radio.
J'ai voulu être journaliste d'une manière assez banale, parce qu'en fait, je voulais raconter des histoires et également voyager. Sauf que je pensais que je n'étais pas apte, enfin pas capable d'être journaliste. Et donc, j'ai commencé par la petite porte, c'est-à-dire que j'ai commencé par stagiaire non rémunéré au Journal du Dimanche. J'ai commencé tout au bas de l'échelle avant d'être intégrée 2 ans après et propulsée reporter en faisant du fait divers pour commencer. Mais j'ai fait des faits divers comme je voulais les faire. Et après, j'ai voulu faire la guerre avec un chef d'info à l'ancienne qui m'avait dit « Karen, il n'y a pas de filles qui feront la guerre ». Et j'ai fait la guerre, bien évidemment. Voilà. Donc, je me rends compte à l'époque que j'étais un peu dingue et un peu rebelle quand même. Après, mes amis vous diront que je me tire une balle dans le pied, que je ne suis pas du tout diplomate et que peut-être j'aurais dû être chef depuis longtemps si j'avais été un peu plus diplomate et tout. Là, moi, je réponds toujours que c'est une erreur parce que quand vous voulez quelque chose en tant que journaliste, à un moment donné, vous êtes obligé d'être diplomate. La question, c'est de savoir avec qui vous avez envie d'être diplomate. Moi, j'ai pas envie d'être diplomate avec mes supérieurs puisque dans la vie, je n'ai voulu que être grand reporter. L'élément déclencheur qui a fait que là, vraiment, je suis montée en puissance dans ma demande d'aller couvrir la guerre qui correspondait à la première guerre du Golfe. Le samedi, on faisait l'actu du jour et on nous dit qu'il y a un forcené qui tire sur tout le monde dans une banlieue. Donc, j'y vais avec un photographe à l'époque. On tapait à toutes les portes qui correspondaient à un angle possible pour pouvoir faire la photo. Parce que le but du jeu, c'était qu'il ait la photo du forcené à sa fenêtre. Voilà. Une jeune fille nous ouvre la porte, nous répond, et elle nous dit oui, bien sûr, et elle est très digne, très bien mise, enfin, et je suis juste étonnée parce que l'appartement est vide, et je trouve ça un peu bizarre, et on passe devant une cuisine, il y a une cuisinière, et elle nous emmène dans la chambre de son enfant, et le matelas était par terre, il n'y avait rien d'autre, et uniquement une pile de vêtements sur le pied du lit. Je sais pas, je regarde ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, tout se met en branle dans ma tête, sans... et en même temps, c'est pas mon sujet, enfin bon, bref. C'est la dignité de cette jeune femme qui m'a émue, vraiment. J'ai trouvé la situation de cette jeune femme extrêmement violente. J'ai reçu en pleine figure l'espèce de violence sociale à laquelle je n'ai pas l'habitude, puisque je suis une Parisienne, je vis dans Paris, j'ai été élevée à Paris, enfin, je viens pas d'un milieu riche, mais je viens d'un milieu privilégié, donc les banlieues sinistrées, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y a eu pour moi une violence et une injustice. Et j'ai dit stop, je veux plus, je peux plus, je peux plus. Quand je suis sortie, je suis revenue à la rédaction, je suis allée voir mon chef d'info. Antoine, les faits divers, je veux plus les faire, je veux faire des zones de guerre. La guerre, pour moi, était le stade logique et compréhensible. Ça m'a semblé une douleur et une souffrance que je pouvais, en tout cas, moi, assimiler, comprendre et supporter.
La guerre américaine en Afghanistan commence dans les cendres du 11 septembre 2001. À l'origine de l'attaque meurtrière, le groupe Al-Qaïda, dont le chef Oussama Ben Laden, est caché par les talibans au pouvoir à Kaboul.
C'est l'attaque du 11 septembre. Ben Laden fait envoyer ses avions sur les tours jumelles du World Trade Center. Et je suis en vacances, mais comme je suis complètement névrosée, donc je suis devant CNN. Regarder CNN, ça me détend. Voilà, c'est chacun son truc. Hein. Il y en a qui vont dire, ah bah dis donc, elle est folle, elle décroche jamais, machin. De toute façon, je n'aime pas les vacances. Et quand je pars en vacances, je fais du reportage et là, ça me plaît. Et à mon grand désespoir, on envoie quelqu'un d'autre à New York. Je râle, enfin bon, bah, j'ai l'impression de rater l'événement du siècle. Et c'est un événement, hein. C'est l'événement du siècle.
Ces opérations très ciblées sont destinées à empêcher qu'on utilise l'Afghanistan comme base arrière du terrorisme et à démanteler les infrastructures militaires du régime taliban.
Au début, on ne comprend pas que ça va se passer autre part qu'à New York. Et la semaine qui suit, on comprend que les alliés vont bombarder Kaboul. Enfin, bon, c'est là que ça va se passer. Donc évidemment, on se dit, il faut être à Kaboul. Voilà. Et personne ne rentre à Kaboul. Hein. Le pays est entièrement fermé. Il y a des journalistes absolument partout, 5000 journalistes qui attendent à toutes les frontières de l'Afghanistan. Donc je pars pour plusieurs semaines, en l'occurrence à Peshawar, au Pakistan. Et donc je suis avec mon fixeur, je fais des histoires en attendant, on tournicote et tout, et je rencontre deux jeunes qui me disent « Ah bah tiens, on rentre de Kaboul ». Je dis « Comment ça, vous rentrez de Kaboul ?»« Oui, on passe par le chemin des clandestins et tout ça ». Donc j'en parle le soir avec le chef d'info que j'avais à l'époque, qui me dit « Non ». Bon, j'écoute même pas parce que je suis sûre d'être dans mon bon droit. Lui, visiblement, c'est un petit fonctionnaire de l'information. Il pensait pas comme moi. Bon, voilà. Il m'a même pas demandé « Ah bon, mais ça se passerait comment ?» Là, je comprendrais. Mais là, c'était un non catégorique. Tu ne discutes pas, tu obéis à mes ordres. Et donc, je discute un peu avec ces deux jeunes hommes qui me demandent beaucoup d'argent. Donc, je leur dis non. Mais par contre, l'idée reste. On parle de ça avec mon fixeur à l'époque. Ça vient du mot anglais « to fix » qui veut dire « régler », »,« régler les choses ». Donc, c'est la personne qui va vous aider à rencontrer toutes les personnes dont vous avez besoin pour monter, fabriquer un reportage. Donc, il me trouve quelqu'un, un monsieur, qui parle russe. Malheureusement, moi, je ne parle pas russe. Enfin, on ne parle pas de langue commune. C'est un ancien officier des services de renseignement afghans. Donc, il a de la bouteille. Et surtout, il est très patriotique et il veut que les talibans dégagent de son pays. Il me demande 100 dollars. Par jour. Là, je comprends que j'ai affaire à quelqu'un de sérieux, qu'il ne le fait pas pour l'argent et que je vais être d'entre deux bonnes mains. Je suis honnête, je suis très compétitive comme fille et je voulais être la première. Donc l'important, c'était d'aller là-bas le plus vite possible. Donc il faut réfléchir très, très vite. Et donc l'évidence, c'est qu'il faut que je me déguise en afghane. Sa femme me procure une burqa, le pantalon qui va en dessous, les sandales. Enfin bon, bref, je m'habille comme une afghane. Et le lendemain matin, on part et je me revois franchir le seuil de la porte et m'étaler de tout mon long parce qu'évidemment, je ne sais pas marcher avec une burqa. Donc, ça commençait pas très, très bien. Mais bon, voilà, je me dis, OK, on y va. Et je n'avais gardé que mon passeport et ma carte de presse et un carnet avec un stylo quand même, au cas où, parce que qu'on ne me prenne pas pour une espionne. Mais j'avais mis ça dans mon soutien-gorge. En réalité, je n'avais pas de souci à me faire parce que nous avons traversé la frontière donc pakistano-afghane à pied. Je tenais la main du petit garçon de mon fixeur. J'étais censée être sa maman. Et là, je me suis rendu compte qu'une femme en burqa, elle était invisible. Personne ne me regardait. On est invisible au regard masculin. Et on est passé de l'autre côté à pied. Là, on a pris un premier taxi. On a pris deux ou trois taxis, si mes souvenirs sont bons. Là, j'ai commencé à me dire « Oula, dans quoi je me suis embarquée ?» Parce que je trouvais que le chauffeur de taxi me regardait bizarrement, alors que j'étais derrière mon voile. Mais je commençais à psychoter. Enfin, je commençais à prendre, à réaliser un peu ce que je faisais. Parce que j'ai toujours un peu de mal à réaliser ce que je fais. Soit je me faisais tuer, au pire, soit je risquais la prison. Et dans ma petite tête, c'était surtout « je vais rater mon papier ». Il y avait un petit côté comme ça aussi. Bon an, mal an, on a eu, c'est long hein, à l'époque, c'était 8 heures de route. On est passé par Jalalabad où là, les talibans étaient tous dans des pick-up en train de tirer à la calache. Je me suis dit de plus en plus « mais qu'est-ce que j'ai fait ? Dans quoi je me suis embarquée ?» Enfin là, j'ai vraiment flippé parce que on était tout seul, quoi. Vers qui je vais me tourner s'il m'arrive quelque chose ? Vers personne, hein. Bref, nous avons continué. On est arrivé donc en fin de journée à Kaboul. On est allé directement chez la famille de mon fixeur. Donc c'était un ancien général de l'armée afghane, dont la fille parlait très bien anglais, parce que j'avais un problème de traduction aussi. Parce que c'est bien joli d'aller dans un endroit, mais si je ramène rien, Bah, tu parles d'un scoop, hein. Donc, ils ont fait venir les gens dans cette maison qui était fermée avec des rideaux partout pour que surtout ça ne filtre pas. Parce que non seulement j'étais en danger, mais surtout je mettais la vie en danger des gens qui me recevaient. Ils risquaient vraiment très, très gros. Et je suis repartie le lendemain en fin de journée ou le surlendemain, je ne me souviens même plus. Et là, pour repartir, par contre, il n'était pas question de passer par la frontière classique parce que ça n'aurait pas marché. Et on est passé par ce que j'ai appelé, moi, le chemin des clandestins, donc qui est à la sortie de Kaboul, au pied d'une montagne. Et là, on nous a laissés, on est descendu du taxi. 4 heures de route dans la montagne à pied. Mon fixeur m'avait dit « Je ne veux pas entendre le son de ta voix ». On est revenu avec son neveu qui, à la fin, a dit à son oncle « Elle est bizarre, ta cousine ». Parce que j'avais évidemment une façon de marcher qui n'était pas du tout afghane. Alors, j'étais peut-être habillée en afghane, mais j'étais un peu trop sautillante. Il y avait un côté pas soumis, quoi, qui était un peu embêtant. Il y avait un troupeau de chèvres qui est arrivé en face et je suis tombée, mon fixeur m'a ramassée. Et après, j'avais le tibia en sang, je l'ai caché avec ma burqa et je n'ai pas dit un mot. Si la moindre personne se doutait qu'il était flanqué d'une personne qui n'a rien à faire dans ces territoires, c'était dangereux pour lui et pour moi. Enfin, c'est une question de survie, quoi. J'ai vu les trafiquants de drogue, les trafiquants d'armes, toute une vie parallèle qui passe par là, où personne n'a accès. Aucun occidental se balade là, quoi. Enfin, occidental, journaliste, enfin, personne. Et là, j'ai une altercation avec mon rédacteur en chef qui prenait jamais le temps de m'appeler. Je vois qu'il m'a appelé 40 000 fois. Et quand je l'appelle, je lui dis « Bon, bah écoute, c'est bon, c'est dans les tuyaux. J'ai réussi à rentrer à Kaboul. On va pouvoir faire un papier pour dimanche. » Et il a cette phrase extraordinaire. Il me dit « J'en ai rien à foutre que tu sois allée à Kaboul, Karen, tu m'as désobéi. » Et donc, je lui ai raccroché au nez. Et en fait, j'ai été estomaquée. Sa bêtise était abyssal, mais vraiment abyssal. Il aurait dû me dire « Écoute, Karen, tu fais chier, on t'avait dit de pas y aller, mais écoute, félicitations. » C'est ça qu'il fallait faire. L'autre, il est resté campé sur ses positions de petit chef stupide qui n'aurait jamais dû être journaliste. Enfin, ce monsieur n'avait rien à faire dans la presse de toutes les façons. Et je fais mon premier papier, un premier jet qui est nul. Franchement, une bouse. Il n'y a pas d'autre mot, une bouse. J'ai été écrasée par cette aventure. Donc, j'ai refait, évidemment, mon papier. Et donc, j'ai fait un scoop mondial. La seule journaliste au monde à être entrée dans Kaboul 10 jours avant les frappes. Les cadavres en eux-mêmes, on ne peut pas dire que ça me dérange. Après, oui, au Rwanda, j'avais vu un bébé et une mère. La mère avait été violée, le bébé avait été haché avec une batte de baseball, il y avait de la cervelle partout. À 6 heures du matin, bon, OK. Et là, je suis restée avec 3 jours l'odeur de la mort dans le nez. Je ne pouvais rien manger, j'avais cette odeur-là. Ça s'était rentré dans mes narines, parce que ça a une odeur. Je garde un souvenir très net de cette femme et de ce bébé, alors que j'en ai vu d'autres après. Ça ne m'a pas perturbée. C'était le reste, entre guillemets, des massacres, en fait. Hein, parce qu'on n'a pas pu voir les massacres. On découvrait au fur et à mesure l'étendue des massacres. Donc, non, ce qui me déstabilise, oui, c'est quand j'ai connu quelqu'un qui, après, j'apprends qu'il est mort. Ça me instantanément, clac, t'étais mort. Oh, ça, c'est assez sidérant, quoi. Je préfère ne pas y penser, en fait. J'aime pas trop penser à ça. Je fais toujours cette comparaison avec un chirurgien. Un chirurgien, il ne peut pas tomber dans les pommes quand il est en train de travailler dans les entrailles de quelqu'un. Ben nous, si on a choisi, parce que ça repose sur un choix, hein, d'aller sur des zones compliquées, on ne peut pas s'évanouir si on couvre, si on ne sait pas se blinder. Mais alors, je fais quand même une différence entre couvrir un événement avec ou sans carnet de notes. Parce que le photographe, il est protégé par son appareil photo, le caméraman par la caméra, et nous, on est protégé par notre carnet de notes. C'est un filtre, tu vois. C'est un filtre, c'est indispensable. Si tu veux être totalement avec les autres, bah, tu changes de métier, c'est toujours pareil. Hein. Les humanitaires, c'est pareil. À un moment donné, ils sont blindés, je ne sais pas comment, mais sinon, on ne peut pas. Si la rencontre que j'ai eue avec telle ou telle personne a pu aider... Ouais, ça m'a vraiment motivée. J'ai toujours cet exemple à Arcachon, il y avait des problèmes d'huîtres. Je fais le portrait d'un monsieur qui était en fin de parcours et qui était obligé de fermer son entreprise. Donc, je fais une jolie histoire et je passe à autre chose. Sauf que, quelques semaines plus tard, où je ne me souviens plus du timing, je reçois une lettre de ce monsieur et il me remercie et il me dit que grâce à cet article, la mairie s'est penchée sur son cas et l'a sauvée, entre guillemets, puisqu'elle lui a donné du travail. Et là, moi, je pense que ma fonction, j'ai rempli ma fonction, c'est-à-dire que j'ai servi à quelque chose. Alors, c'est moins glamour que Sarajevo, mais là, à ce moment précis, c'est un petit grain de sable sympathique dans une grosse machine qu'est la vie, qui marche toute seule, qui a besoin de rien pour dérailler ou ne pas dérailler, d'ailleurs. Et ça m'a fait plaisir. Et ça m'aide aussi à traverser la vraie vie, accessoirement. Mon mari, je l'appelle matin et soir, hein, quand même. Hein. J'ai l'égoïsme de partir, mais je trouve tellement normal qu'on me laisse faire mon métier, mais je trouve aussi normal de rassurer l'autre. Et j'ai envie de l'avoir au téléphone aussi, tout bêtement. Hein. Après, je ne vous dis pas que ce qu'il me raconte m'intéressait chaque fois. Non, il y a des fois, ça ne m'intéressait pas. Surtout quand je vivais des choses très, très fortes. Mais lui aussi, j'imagine. Nos exploits sur le terrain, je pense qu'au bout d'un moment, ça lasse un peu l'autre. Ça fait rêver au début, ça, c'est sûr, ça fait rêver. Mais après, à usage, ça fait moins rêver. Il faut bien dire aussi que cette personne, elle se tape entre guillemets le quotidien. Et le quotidien, c'est pas forcément très rock'n'roll tout le temps. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller au supermarché. Je vois pas, je sais pas. J'ai un peu de mal avec le quotidien et la banalité de la vie. La vie, c'est banal, hein, d'une manière générale. Ma vraie place, c'est d'être en mouvement, d'être en voyage, d'être avec des gens que je ne connais pas, que je rencontre. Je pose 10 000 questions. J'adore qu'on me raconte sa vie. Tout est dans le détail et la fabrication du reportage. Je ne tends que vers ça. C'est-à-dire que tout le reste n'existe plus. Je ne pense à plus rien d'autre. Je ne pense pas à mon compte en banque. Je sais pas, aller me faire épiler. Je vous dis n'importe quoi. Hein. Encore que je me sois beaucoup fait épiler dans les pays où je suis passée parce que c'est un objet de reportage aussi. Se faire épiler au Pakistan ou en Iran, c'est pas pareil. J'ai très peu de penser. En fin de journée, je me pose et là, j'ai envie de dire, l'autre existe enfin, entre guillemets, donc je vais penser à mon mari, à mon fils et tout ça. Mon mari a 2 filles et je dis toujours que c'est grâce à elles que j'ai voulu avoir un enfant et tellement elles sont top. Mais comme je ne pouvais pas en avoir, voilà, j'ai décidé qu'on allait adopter. Nous avons adopté un petit garçon, donc quand il est arrivé en France, il avait 5 ans. Je suis repartie en reportage 1 mois après son arrivée en France. En Afghanistan, je suis partie, je crois, 12 jours. Il fallait que je parte. J'avais négocié avec le journal de ne pas prendre mon arrêt qui est de 13 semaines pour les femmes qui ont un enfant biologique et 11 semaines pour les femmes qui adoptent. Et moi, j'avais négocié 15 jours par mois parce que j'étais dans l'incapacité de prendre mes 11 semaines d'affilée. Je le reconnais, peut-être que j'ai été une très mauvaise mère, je ne sais pas, mais c'était comme ça. J'ai trouvé une espèce d'équilibre temporel où j'arrivais à gérer la vie à Paris et la vie en reportage. Après, on a tous nos névroses. Hein. Moi, je pense que c'est quand même un métier de névrosé. Ma névrose, c'est de partir tout le temps et d'aller rencontrer des gens qui souffrent et ensuite transmettre. Ça, c'est ma névrose. Mais j'ai plutôt tendance à ne pas raconter. Ça, c'est un reproche qu'on m'a fait en famille. Toutes les zones de guerre, je ne me suis jamais allongée en disant « j'ai fait des cauchemars » et tout ça. Non, non. J'ai fait 20 ans de psychanalyse, donc je me cache pas de là-dessus. Hein. C'est plus un exercice intellectuel et qui, de temps en temps, c'est des gens quand même compétents et qui ont des clés que moi, je n'ai pas sur ce qui peut m'arriver ou ce que je peux ressentir et qui fait que je me dis « Ah bah oui, tiens, j'aurais dû y penser. » Et voilà. Ah bah du coup, ça va beaucoup mieux. Et la chose où j'ai vraiment eu du mal à le gérer, qui était cet enfant que j'avais laissé en Sierra Leone, j'en ai parlé un peu, j'ai un peu compris, mais J'ai pas besoin d'un psy pour savoir que c'était moche ce que j'ai fait de laisser ce gamin derrière moi, quoi. Enfin, voilà, donc ça... Mais bon... À cette époque-là, donc, c'était la guerre en Sierra Leone et on commençait à entendre des histoires invraisemblables sur les enfants soldats. Il n'y avait pas eu encore de vrais reportages sur la question. Je vais donc à Freetown. Bon, c'était assez compliqué pour aller là-bas, mais je bénéficie de l'hélicoptère de la BBC, parce que la BBC a les moyens, puisqu'on allait voir le même orphelinat où on nous avait dit qu'il y avait des enfants soldats. On nous présente des enfants et notamment un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Civilian, mais ce n'était pas son vrai nom, mais c'est comme ça qu'il a demandé d'être présenté. Et la BBC fait son truc, on pose des questions et tout. Ils mettent énormément en scène la Bib, donc voilà, bon. Et après, ils s'en vont. Puis après, il me regarde très sérieusement, il me dit « Bon, dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir ?» Là, je reste un peu interloquée et là, on est rentré dans le dur. Et on est donc rentré dans sa vie d'enfant soldat, le fait qu'il avait tué son grand-père, enfin, des choses totalement horribles, invérifiables. Et donc, je reste, mais scotchée. Qu'est-ce que je vais faire de ce témoignage? Je suis incapable de le vérifier. Je n'ai que le propos de ce jeune homme, qui, ça trouve, me raconte n'importe quoi. Je reste peut-être 2 heures encore avec lui, le pasteur qui tenait l'orphelinat, qui me dit « si vous voulez assister au repas des enfants ». Alors j'assiste au repas des enfants et je m'aperçois qu'il n'est pas là. Civilian, il a disparu, je ne le vois pas. Alors je me dis « tiens, c'est bizarre et tout ». Puis il est temps de partir parce qu'il y avait un couvre-feu. Et donc je dis au revoir à tout le monde, aux enfants, et puis je ne le vois pas. Donc je me dis « oh, bah, j'ai fait un transfert, t'es complètement idiote, ma pauvre. Qu'est-ce que tu t'es imaginé ?» Et dans l'absolu, qu'est-ce que je m'étais imaginé de toute façon ? Je m'étais attachée à lui de manière invraisemblable. Et donc je retourne vers le taxi qui nous attendait. Au moment où je rentre dans le taxi, je me retourne quand même. Il est là et il est perché sur un rocher et il me fait des signes. J'étais, mais je n'ai même pas l'idée de retourner vers lui. Et bref, et je rentre à l'hôtel et ça me travaille. Et le lendemain, j'hésite, je me dis qu'est-ce que je fais, j'y retourne. Et puis, les raisons du non l'emportent. D'abord, comment je peux le sortir du pays? Enfin bref, et du coup, je suis partie en me disant que j'ai abandonné cet enfant. Et voilà, avant, je ne pouvais pas en parler sans pleurer. Maintenant, j'en parle, je ne pleure plus, c'est déjà un progrès. Mais c'était moche ce que j'ai fait, quoi. Parce que j'aurais pu au moins... Je sais pas, garder le lien et essayer de... J'aurais pu faire quelque chose, quoi. Là, je suis partie avec mon histoire. Ah, j'étais contente, j'avais une très bonne histoire sur les enfants soldats, mais bon. Humainement parlant, j'étais pas à la hauteur. Voilà, non. Mon dernier reportage, ça a été vécu d'une manière très compliquée parce que je savais que c'était le dernier, parce que je savais que je quittais le JDD. J'ai été très malade avant de partir. On a cru que j'avais une pancréatite aiguë. Donc le médecin me dit « Madame l'agent, vous ne pouvez pas partir ». Et j'étais hystérique en lui disant « j'en ai rien à faire, vous avez qu'à me donner un médicament et tout ». Bon là, il a vu qu'il avait affaire à une folle. Une fois que je suis arrivée à Bangkok, tout avait disparu. Et après, j'étais dans le feu du reportage. J'avais un confrère du Monde qui avait essayé de passer de l'autre côté quelques temps auparavant, qui était resté tanké pendant 15 jours. Il n'avait pas réussi. Moi, j'arrive le samedi et ils me disent « Karen, on passe lundi ». J'ai dit oui, je n'allais pas dire non. Hein, voilà. Mon chef, encore un, qui m'a dit « Il est bien entendu, Karen, que tu ne traverses pas pour aller en Birmanie ». J'ai dit oui. Et j'ai évidemment sauté sur l'occasion. Voilà, c'est mon dernier reportage, j'ai 64 ans, qu'est-ce que ça... Enfin bref, voilà. C'était un peu la der des der. Donc j'étais très contente, à part que le papier n'est jamais sorti puisque le journal est rentré en grève et qu'après c'était fini.
Le 6-9.
Plus d'un mois de grève et 5 week-ends sans journal du dimanche. Vincent Bolloré, désormais propriétaire de CNews et en passe de l'être pour le JDD. Le sort de l'hebdomadaire relance donc le débat sur l'indépendance des médias et le pluralisme de la presse dans un contexte de concentration toujours plus forte aux mains de quelques milliardaires.
Moi, je l'ai vécu comme une double mort. C'était une mort personnelle de 38 ans de parcours professionnel à l'intérieur de ce journal et la mort d'un titre dans le contenu dans lequel je l'avais pratiqué. Et je suis passée de 2 déplacements par mois à rien. Donc ça, évidemment, c'était un peu bizarre. Je vis, j'ai envie de dire. Voilà. Je fais du vélo, fais beaucoup de vélo et de la marche olympique, celle qui va très vite. J'évacue mon énergie. J'ai des choses à faire, hein. Je ne suis pas inactive, mais bon, je ne voyage pas. Je n'ai pas pris l'avion depuis le 30 juin. Voilà. Ça, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je suis née. Donc, je rêve qu'une chose, c'est de prendre l'avion, d'être en décalage horaire, rencontrer des gens, voir d'autres, être dans d'autres circonstances.
Arte Radio.
Bon, peut-être que ça va recommencer, on ne sait jamais dans la vie.
Point.
Maintenant que je fais un peu moins de choses, je lis L'Équipe, par exemple. J'avais pas le temps de le lire, je lis L'Équipe.
Comme